Bonjour à tous. Comme vous le savez, le pape François a rejoint la maison du Père le lundi de Pâques à l'âge de 88 ans. Tant que son successeur n'aura pas repris les audiences générales, nous continuerons de vous proposer à cette heure le magazine pour l'Afrique de Radio Vatican, daté du mardi soir.
Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Les cardinaux réunis au Vatican pour leur 12e congrégation générale mardi 6 mai, à la veille du début du conclave marquant l'élection du nouveau pape, les cardinaux ont lancé un appel à un cessez-le-feu dans les lieux où des conflits sont en cours dans le monde. L'actualité de l'Église nous conduira également au Bénin, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo, entre autres. La crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, la guerre au Soudan et les tensions en Libye concerneront l'actualité politique et sociale sur le continent africain et nous bouclerons ce programme avec la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Réunie en 12e congrégation générale mardi 6 mai et constatant avec regret l'absence de progrès dans la promotion des processus de paix en Ukraine, au Moyen-Orient et dans de nombreuses autres régions du monde, les cardinaux ont exprimé leurs préoccupations face à l'intensification des attaques, en particulier contre la population civile. Ils ont invité les fidèles à intensifier la supplication au Seigneur pour une paix juste et durable. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a affirmé que quelques 173 cardinaux, dont 130 cardinaux électeurs, ont participé à la 12e congrégation générale mardi 6 mai, veille de l'ouverture du conclave. Divers sujets abordés se sont notamment concentrés sur les qualités nécessaires à un futur pape. Les discussions ont porté sur les réformes du pape François qui doivent être poursuivies, la législation sur les abus, les questions économiques, la curie romaine, la synodalité, le travail pour la paix et la protection de la création. Le thème de la communion a été souligné appelant le nouveau pape à être un pontife, un bâtisseur de ponts, un pasteur, un maître d'humanité et le visage d'une église samaritaine. En temps de guerre, de violence et de profonde polarisation, a-t-on affirmé, un pape de miséricorde, de synodalité et d'espérance est nécessaire. Le droit canonique et le pouvoir du pape, les divisions et le rôle des cardinaux dans l'Église, la proximité de la solennité du Christ-Roi et de la Journée mondiale des pauvres, qui doivent être considérés conjointement, et la nécessité de réunion du Collège des cardinaux lors des consistoires ont été abordés. D'autres sujets ont été également abordés, notamment l'initiation et la formation chrétienne en tant qu'acte missionnaire, la mémoire du témoignage des martyrs de la foi dans les zones de conflit et où la liberté religieuse est limitée et la question urgente du changement climatique. À la place de la traditionnelle cérémonie d'investiture des nouvelles recrues le 6 mai, suspendue en raison du siège vacant, la garde suisse pontificale a organisé une cérémonie commémorative privée. La cérémonie a débuté à 11h, heure de Rome, mardi 6 mai, par un dépôt de gerbes devant le mémorial de la caserne, un hommage silencieux à la mémoire des gardes tombés pour protéger le pape lors du sac de Rome en 1527. Lundi 5 mai dans l'après-midi, les personnes impliquées dans le conclave ont prêté serment d'observer le secret absolu comme l'exige la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis. Parmi elles, les maîtres de cérémonies pontificaux, le personnel de la sacristie et du nettoyage, les médecins, les infirmières et les confesseurs. Le secret absolu sera également maintenu sur tout ce qui se déroulera au Vatican pendant le conclave et en particulier sur ce qui concerne les opérations liées à l'élection du pape. L'actualité de l'Église nous conduit en République démocratique du Congo, au diocèse de Lolo plus précisément, où l'ordinaire du lieu, Monseigneur Bertin Nandoy, a célébré le 27 avril ses 10 ans d'épiscopat. À cette occasion, il a exprimé sa reconnaissance envers le pape François. Il prie et fait prier pour le conclave. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu.
Que nous ayons un nouveau pape pour l'Église. Et nos prières accompagnent les cardinaux qui sont en conclave et nous sommes contents que tout passera par la grâce de Dieu et de l'Esprit Saint qui va les accompagner.
Les 10 ans d'épiscopat de l'évêque de Lolo auront été un apostolat aux périphéries, comme l'aurait souhaité le pape François.
Effectivement, c'est un diocèse rural, isolé, il n'y a pas de route. Et nous faisons la pastorale de proximité pour rendre service et rendre vie à ce diocèse. Voilà, aujourd'hui, 10 ans passés dans ce diocèse, il y a eu beaucoup de changements et nous sommes contents que les gens aient apprécié le travail que nous faisons.
Monseigneur Jean-Bertin Nandoy a tiré un bilan.
Oui, effectivement, c'était depuis le 12 avril 2015 que j'ai été ordonné évêque du diocèse de Lolo. Effectivement, je remercie le défunt pape François qui nous a donné cette responsabilité. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la vocation que nous avons reçue dans ce diocèse, pour la présence des missionnaires qui sont dans ce diocèse, les sœurs de Saint-Joseph de Cuneo, les pères Oblats de Marie Immaculée et ceux qui vont venir. Et dans 2 ans, nous aurons à ordonner plus de 10 séminaristes comme prêtres.
Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Au Bénin, en prélude au conclave qui s'ouvre mercredi 7 mai, messe et autres formes de prière s'intensifient dans les différents diocèses du pays afin que sorte de ce grand événement d'Église un pasteur selon le cœur de Dieu. Les détails avec Justin Lannon.
Son Excellence Monseigneur Koffi Roger Anomo, évêque de Lokossa, a tout de suite invité le peuple de Dieu qui est à Lokossa, l'ensemble du clergé, les religieuses et religieuses, ainsi que tous les laïcs et les personnes de bonne volonté à prier pour la bonne tenue de ce conclave.
C'est ainsi que le temps est donné par Monseigneur Koffi Roger Anomo à Lokossa, au sud-ouest du pays, selon l'explication du père Joël Bonou, directeur diocésain de la communication. Signal identique à Djougou, au nord du pays, mais aussi à Cotonou. Père Hubert Kedouide, directeur diocésain de la communication à Cotonou.
L'archevêque de Cotonou a souhaité que l'église de Dieu qui est dans le diocèse de Cotonou puisse s'arrimer ou être en synergie avec l'Église universelle en invitant tous les fidèles à la prière, prière personnelle, mais au-delà de ça, les célébrations eucharistiques et à la fin de chaque célébration, une dizaine de « Je vous salue Marie » pour confier au Seigneur tous les cardinaux qui, avec Marie comme au Cénacle, vont être à la disposition de l'Esprit-Saint pour le choix de celui qui va être le serviteur des serviteurs du peuple de Dieu.
Cotonou, juste Rlanon pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, les fidèles sont en prière pour que Dieu donne un pasteur selon son cœur pour relever les défis actuels de l'Église. Marcel Ariston Blé nous fait part de quelques attentes locales.
L'attente du pape se fait dans la prière. Nous attendons non pas un homme parfait, mais un homme de Dieu, un pasteur qui viendra unir donc le peuple de Dieu, qui viendra aider le peuple de Dieu et guider ce peuple de Dieu-là vers le salut. Et dans cette attente-là, nous devons demeurer dans la prière parce que ce n'est pas un choix humain, mais c'est un appel divin. Ce nouveau pasteur qui vient, c'est le choix de Dieu. Alors demeurons tous dans la prière pour que Dieu choisisse l'homme qu'il faut, pour que ce pasteur-là soit le pasteur du monde, le pasteur de tous les hommes de notre temps d'aujourd'hui.
Nous sommes certes dans l'attente, mais il faut reconnaître que l'Église qui espère en humanité, nous préparons à tous ces grands moments. Aujourd'hui, à travers ce conclave, nous pouvons dire que nous savons, avec les tests de l'Église, que le pape qui viendra sera à ce niveau pour ce peuple de Dieu. Ce peuple dans ce moment où il y a plusieurs difficultés en ce monde, ce moment avec tous ces changements que nous constatons, ce pape reviendra pour nous donner confiance et donner à ce monde, à travers ses actions, cette paix que tous recherchent, surtout dans une patience de foi et surtout un visage de miséricorde du Christ, le Christ qui vient nous sauver, ce Christ qui s'est présenté à nous par sa résurrection.
On veut un nouveau papa à la tête de notre Église et on espère que celui qui sera élu sera proche de sa communauté, comme était le pape François.
C'était là quelques éléments recueillis par Marcel Ariston Blé en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent en Tanzanie où la conférence épiscopale condamne fermement l'agression le 30 avril de son secrétaire général, le père Charles Kitima, au cours de laquelle il a été grièvement blessé. L'épiscopat de Tanzanie appelle les agences de sécurité à agir rapidement pour rendre justice au père Kitima. Au Nigeria, sept frères capucins, membres de la custodie de Saint-François et Sainte-Claire de l'ordre des frères mineurs capucins, ont été tués dans un accident de la route le 3 mai, alors qu'ils voyageaient de l'état d'Enugu à l'état de Cross River.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le ministre rwandais des Affaires étrangères a dévoilé mardi un calendrier pour le processus de paix avec la République démocratique du Congo, ajoutant que l'accord final devrait être signé mi-juin à Washington. Quelques 20 000 personnes ont fui le Soudan pour se réfugier au Tchad au cours des deux dernières semaines pour échapper aux violences dans la partie occidentale du Darfour. C'est ce qu'a indiqué mardi l'ONU, qui se dit préoccupé par ces déplacements massifs à un rythme alarmant. Par ailleurs, des drones ont touché la principale sous-station électrique de Port-Soudan mardi, provoquant une coupure de courant totale au siège du gouvernement allié à l'armée dans sept villes de l'est du Soudan. La mission d'appui de l'ONU en Libye, Manul, s'est dite mardi alarmée par des images présentées comme étant celles d'un député enlevé il y a un an. La Manul a précisé avoir demandé à des experts de l'ONU de vérifier l'authenticité de cette vidéo du député de Benghazi, Ibrahim Al-Dirsi. À la veille de l'ouverture du 76e conclave de l'Église, mercredi 7 mai, le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque émérite de Dakar au Sénégal, raconte sa participation au conclave de 2013 qui a vu l'élection du pape François. Il dit également attendre du nouveau souverain pontife le renforcement de l'unité. On l'écoute.
C'était la première fois que je participais à un conclave et la dernière fois d'ailleurs. Mais étant donné que je participais à la première fois au conclave, il y a un temps de découverte. J'étais dans l'esprit de quelqu'un qui cherche à comprendre, qui attend quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Donc, recherche, prière pour savoir comment je devrais me comporter. Et puis après, quand c'est arrivé, eh bien, c'était assez clair dans le processus pour pouvoir y entrer et accomplir ma mission.
Beaucoup d'émotions à se retrouver dans ce lieu sacré.
Bon, il y a d'abord sa beauté artistique. Hein. La chapelle Sixtine est vraiment merveilleuse au niveau de tous ceux qui les peintures qui sont là. Et également aussi, on est ému parce qu'on sait qu'avant nous, d'autres cardinaux ont élu les papes précédents. Donc c'est comme une espèce de lieu sacré après la désignation du futur pape par l'Église catholique et à travers ses cardinaux et évidemment, ces cardinaux, encore une fois, qui ne sont que des instruments vivants par lesquels Dieu passe pour pouvoir désigner le pasteur qu'il veut pour son Église. Donc vraiment, sentiment de découverte, je n'ose pas dire curiosité de découverte, mais en tout cas, attention à découvrir, à voir, à comprendre. Et ensuite aussi, émotion de voir qu'en rentrant dans cette chapelle Sixtine, je vais participer à un conclave au terme duquel il y aura la nomination d'un nouveau pape et me rappeler qu'avant moi, bien d'autres cardinaux, pendant des siècles, ont fait cette démarche.
Et vient après le moment de prêter serment.
Là aussi, bon, heureusement, je n'étais pas parmi les premiers, donc j'ai vu comment ça se passait pour ceux qui m'ont précédé. Et quand mon tour est venu, donc avec émotion, effectivement, prononcer ce serment, la main sur la Bible, qui nous donne conscience de la gravité des votes que nous allons faire afin d'aboutir à l'élection du pape.
Qu'aviez-vous ressenti une fois que votre bulletin s'est retrouvé dans l'urne? Un soulagement, des interrogations?
On prend conscience de cette gravité et on attend. On attend que les bulletins soient dépouillés pour voir si est-ce que l'acte que j'ai posé a abouti à l'élection d'un pape ou bien qu'il faut encore recommencer. Mais vraiment, on est dans l'attente à ce que la majorité requise soit acquise.
Alors, quelle est votre prière à quelques heures de ce conclave qui doit élire un autre pape suite au décès du pape François?
La première chose à faire, c'est prier pour mes frères cardinaux qui vont procéder à cette élection. Priez vraiment pour que le Seigneur les éclaire, que l'Esprit Saint ravive leur amour de Jésus-Christ, leur amour de l'Église, pour qu'ils puissent, en faisant ce geste, eh bien dire, Seigneur, donne à notre Église le pasteur qui vous convient. Et il faut que les chrétiens aussi vraiment se préparent. Prie d'abord pour que le conclave puisse bien se dérouler et que le choix des cardinaux corresponde à ce que Dieu veut, mais aussi se préparer à accueillir le pape tel qu'il sera et quel qu'il soit. Il faut absolument que nous tous nous préparions à accueillir celui qui vient.
Selon vous, quels seront les défis à relever par le nouveau pape?
Il y a vraiment des défis de maintenir l'unité au-delà des différences de vision, des différences d'opinion. L'unité de l'Église, elle continue d'accomplir sa mission au milieu du monde. Et une unité qui s'appuie sur la doctrine, la tradition de l'Église, mais ne rejette pas les nouveautés indispensables pour que l'Église soit aussi attentive au monde moderne dans lequel elle évolue et voir comment répondre aux besoins, aux questions des gens d'aujourd'hui, les personnes, les peuples. Donc c'est très important de voir que l'Église doit maintenir son unité dans la diversité pour pouvoir accomplir sa mission.
Le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque émérite de Dakar au Sénégal, interrogé par Françoise Niamien. Bouclons cette émission avec la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde, présentée par Stanislas Kambashi.
Ouvrons cette rubrique autour du conclave, la réunion des cardinaux qui doit élire les futurs papes. Le conclave qui commence mercredi est à la une de plusieurs médias internationaux. Les analyses et prospectives qui se font dans tous les sens, progressistes, conservateurs, africains, asiatiques, autant des clivages dont on nourrit l'imaginaire des téléspectateurs et lecteurs. La vision des cardinaux est tout autre, nous dit le cardinal Sacco. Pour le patriarche des Babylones des Chaldéens, qui est l'un des cardinaux électeurs, il ne s'agit pas de choisir entre un progressiste et un conservateur, entre nordiste et quelqu'un de provenance sud, mais de choisir la personne qui veillera à l'unité de l'Église.
Nous ne devons pas penser ou diviser l'Église entre deux groupes ou deux classes, progressistes et intégristes. Nous sommes tous membres de cette Église et c'est une responsabilité très lourde sur chacun de nous de choisir celui qui est le meilleur, sans penser aux tendances, parce que mon pape il doit changer sa mentalité. S'il est progressiste, il doit être réaliste. S'il est traditionnaliste, il doit être aussi réaliste. Le monde change, la culture change, etc. Puis, il faut sortir aussi du nationalisme. Ne pas penser que le pape doit être africain ou américain ou du Nord, etc. Le pape est pour toute l'Église et je crois qu'il doit garder l'unité de l'Église et la foi, l'intégrité de la foi catholique.
Le cardinal Louis-Raphaël Ier Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens en Irak. La communauté des Thésées a prié mardi pour le conclave, comme cela s'est fait dans toute l'Église. Une prière œcuménique a été proposée en communauté et en ligne, répondant ainsi à l'appel du Collège des cardinaux émis au cours des congrégations générales. Thésée, qui vit l'œcuménisme depuis sa fondation et les fait vivre aux jeunes qui fréquentent la communauté des Bourgognes en France, s'était aussi engagée à Rome à l'ouverture du synode sur la synodalité. The Papal Foundation, une organisation caritative basée aux États-Unis, a annoncé l'octroi de 14 millions de dollars sous forme de subventions et d'aides humanitaires. Ces fonds serviront à financer 116 projets dans plus de 60 pays. La famille vincentienne a clos les célébrations de la fête des 400 ans de la Fondation des Pères Lazaristes par une messe festive jeudi dernier dans l'église Saint-Eustache à Paris. La congrégation des Saint-Vincent de Paul, fondée en 1625, garde son objectif originel, évangéliser les pauvres et former les prêtres.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabualo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus. Ave, ave.